Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du mercredi 30 octobre, présidentielle américaine, jour J, moins 6.
And I will work with everyone, Democrats, Republicans and Independents, to help Americans who are working hard and still struggling to get ahead.
Kamala Harris s'est adressée la nuit dernière aux Américains dans un discours ici à Washington DC. Son rival Donald Trump était en Pennsylvanie.
Our country will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than ever before.
Que pensent les Africains de ce duel électoral entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump? On entendra quelques-uns dans ce journal. Dans la deuxième partie de cette édition, nous irons au Gabon où la Société nationale de neurologie et plusieurs ONG sensibilisent sur les AVC, les accidents vasculaires cérébraux.
Lorsqu'on souffre de ces pathologies, il faut les prendre en charge correctement. Maintenant, il y a d'autres facteurs de risque tels que la sédentarité.
Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition, juste avant la page des sports de Nanit Talani. Allentown, en Pennsylvanie, pour le républicain Donald Trump et Washington DC pour sa rivale démocrate Kamala Harris. Entre accusations mutuelles et promesses d'espoir pour les Américains, les deux candidats ont harangué leurs partisans la nuit dernière. Michel Joseph.
Devant des dizaines de milliers de personnes, 75 000 selon son équipe de campagne réunie à Washington DC, Kamala Harris a promis d'écrire un nouveau chapitre. Elle a assuré qu'en cas de victoire, elle mènerait une politique différente en se concentrant sur le coût de la vie avec des aides en matière de logement et d'accès à la santé. La vice-présidente et candidate démocrate a aussi livré un réquisitoire contre son rival républicain.
Donald Trump intends to use the United States military against
Donald Trump a l'intention d'utiliser l'armée américaine contre les citoyens américains qui ne sont tout simplement pas d'accord avec lui, des personnes qu'il qualifie, je cite, d'ennemis de l'intérieur.
America, this is not a candidate for president.
L'Amérique n'a pas affaire à un candidat à la présidence qui réfléchit à la manière d'améliorer vos vies. C'est quelqu'un d'instable, obsédé par la vengeance, rongé par le ressentiment et en quête d'un pouvoir sans limite.
À Allentown, en Pennsylvanie, le candidat républicain Donald Trump s'en est lui aussi pris à son adversaire démocrate. Il a aussi repris ses critiques sur l'immigration, répétant que les États-Unis sont devenus une poubelle à cause d'un afflux de migrants.
But I'd like to begin with a very, very... simple question.
Je voudrais commencer par une question très simple. Votre situation est-elle meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 4 ans? Je suis donc ici aujourd'hui avec un message d'espoir pour tous les Américains avec votre vote lors de cette élection. Est-ce que je m'en réjouis? Nous attendons cette élection. Je vais dire nous parce que nous allons le faire ensemble. Nous mettrons fin à l'inflation, nous arrêterons l'invasion de notre pays par des criminels et nous ramènerons le rêve américain.
Plus de 50 millions d'Américains ont déjà soumis leur bulletin par la poste ou en votant par anticipation sans attendre le 5 novembre. En 2020, quelques 160 millions de personnes au total avaient voté. Les deux candidats font jeu égal dans les sondages, en particulier dans les 7 États décisifs qu'ils sillonnent désormais sans relâche.
Nous revenons sur cette spécificité américaine. Les grands titres de la presse ont l'habitude de soutenir un candidat à l'élection présidentielle. À la surprise générale cette année, à seulement quelques jours de l'élection, le quotidien Le Washington Post a décidé de ne soutenir aucun candidat. Pour mieux comprendre ce changement et ses implications, Claire Morin-Gibou a joint le maître de conférence en culture et société des États-Unis à l'Université de Lorraine en France, Sébastien Mohr.
Depuis 1976, Le Washington Post n'a soutenu que des candidats démocrates, aucun candidat républicain n'a été soutenu. Donc on peut quand même interpréter cette décision comme le refus de soutenir Kamala Harris. Ensuite, moi je pense qu'il y a une raison financière et stratégique extrêmement claire de la part de Jeff Bezos de mettre un terme à cette tradition. Je pense que Jeff Bezos, comme le propriétaire du LA Times, Patrick Soon-Shiong, ont des intérêts financiers et économiques absolument colossaux et pressentent que dans le cas d'une victoire de Trump, le fait que leurs journaux aient un positionnement extrêmement critique, extrêmement virulent à l'encontre de l'administration de Trump et de Trump ensuite lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche, que ça pourrait leur nuire à leurs intérêts financiers. Donc je pense que la vraie raison, c'est une raison purement cynique de la part de milliardaires qui ont sauvé ces deux journaux de la faillite financière, mais qui maintenant en fait viennent un peu réclamer leur dû.
C'était Sébastien Mohr, auteur du livre « Ondes de choc, histoire médiatique et politique » de la radio conservatrice aux États-Unis. Lorsque les électeurs américains se rendront aux urnes le 5 novembre, ils choisiront qui contrôlera le Congrès des États-Unis et décideront de l'ancien président Donald Trump ou la vice-présidente Kamala Harris sera à la Maison-Blanche, quel que soit le parti qui contrôlera la Chambre des représentants ou le Sénat. Il aura un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre du programme législatif du prochain locataire de la Maison-Blanche. La correspondante de la VOA au Congrès, Catherine Gibson, se penche sur les principales élections sénatoriales dans tout le pays. Le récit est de Nanit Talani.
Talk to voters and make sure they're voting all the way down the ballot.
Donna West, militante démocrate de longue date, ne se contente pas de faire campagne pour la vice-présidente Kamala Harris depuis son garage de Las Vegas au Nevada. Elle dit qu'elle se bat aussi pour que la sénatrice démocrate Jackie Rosen conserve son siège au Sénat américain.
Plus nous sortirons et parlerons aux électeurs, plus je serai confiante dans le fait que nous maintiendrons Jackie au Sénat et que nous prendrons la majorité.
Le Nevada est l'un des rares États américains à connaître des élections sénatoriales compétitives qui détermineront qui, des démocrates ou des républicains, détiendront la majorité. Les démocrates détiennent actuellement une courte majorité avec 51 sièges. L'adversaire de Rosen, Sam Brown, qui a été blessé lors de son service en Afghanistan, affirme qu'il est temps que les choses changent à Washington.
Nous avons une économie à remettre en place. Il y a des choses que nous pouvons faire, du logement à notre politique énergétique. Nous devons nous occuper de la situation à la frontière.
Au Texas, qui est traditionnellement un bastion républicain, les sondages montrent que la course est serrée entre le démocrate Colin Allred et le sénateur républicain Ted Cruz. Lors de leur débat de la semaine dernière, M. Allred a interrogé M. Cruz sur l'assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis.
Cette élection est sur sa responsabilité. On ne peut pas juste être patriote quand son camp gagne.
Ted Cruz a réfuté cet argument.
Vous ne l'entendez pas parler des émeutes d'Antifa et de Black Lives Matter qui ont brûlé des villes à travers ce pays.
Dans l'État rural du Montana, le sénateur démocrate John Tester est confronté au républicain Tim Sheehy. Lors de la convention nationale démocrate plus tôt cette année, un délégué a déclaré que de nombreux électeurs de l'État pourraient voter pour l'ancien président et candidat républicain Donald Trump, mais qu'il maintiendra un démocrate au Sénat. Mary Jo est une électrice du Montana.
Le sénateur Tester a tenu ses promesses pour nous en ce qui concerne la loi agricole et nous sommes bien trop intelligents pour laisser passer cela.
Mais lors de la convention nationale républicaine, les délégués ont déclaré que les votes libéraux de M. Tester ne convenaient pas à l'État. Suzanne Renault, électrice du Montana.
Tim Sheehy est un vrai vétéran. C'est un héros de guerre. C'est un Navy SEAL.
Le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis pourrait également basculer, passant des mains des républicains à celles des démocrates. Les 435 sièges de la Chambre doivent être réélus cette année.
Les jeunes électeurs qui participent cette année justement à l'élection présidentielle américaine s'appellent la génération Z. Elles sont âgées de 18 à 27 environ. Qu'il s'agisse d'apprendre à voter ou de solliciter des soutiens en faisant du porte-à-porte, ils sont nombreux à s'engager dans le processus civique du vote. C'est un reportage de Laurel Bauman de la VOA, récit Lionel Gaïma.
Thank you, our first mock voter.
Les étudiants du Montgomery College de Rockville dans le Maryland ont récemment mis en place un isoloir fictif avec des échantillons de bulletins de vote et ont invité des responsables électoraux à dispenser une formation sur le scrutin. Cette initiative vise à préparer les jeunes électeurs à remplir leurs devoirs citoyens cette année. Brittany Green est une des organisatrices de ce vote fictif.
L'événement d'aujourd'hui avait pour but d'éduquer les électeurs et de permettre aux gens de voir les bureaux de vote, de voir ce qu'ils vont vivre dans les bureaux de vote.
Des participants comme Akia Damang ont apprécié.
Je voulais juste voir ce que cela fait de voter pour la première fois. C'est la première fois que je vais voter pour l'élection présidentielle et je voulais voir la procédure.
Ces jeunes électeurs s'intéressent à toute une série de questions. Nandi Ijefuka, participant du sondage fictif.
Les questions financières avec la dette du pays, je n'y comprends pas grand-chose. Mais si je regarde, c'est un gros chiffre. Je ne comprends pas pourquoi elle est si élevée.
Libby McClayton, organisatrice du sondage fictif.
Je dirais que le changement climatique est important, ainsi que les droits reproductifs.
Mambi Musonda, organisateur politique étudiant.
Je pense que pour beaucoup des gens, le rôle de l'Amérique dans le monde est une question très importante, en particulier pour les jeunes électeurs.
Dans la course à la Maison-Blanche, entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, la plupart des étudiants que nous avons interrogés n'ont pas voulu révéler pour qui ils allaient voter. Mais on s'attend à ce que l'État du Maryland, bastion des démocrates, choisisse Kamala Harris. Nous avons donc demandé à Jacqueline Hahn, présidente des Jeunes Républicains de Géorgie, quelles sont les questions importantes pour ses camarades républicains.
Entre le logement, l'inflation, les prix des produits alimentaires et de l'essence qui ne cesse d'augmenter, il est hors de prix de vivre et fonder une famille à l'heure actuelle.
Et comment les campagnes doivent-elles s'y prendre pour atteindre ces jeunes électeurs? Écoutons encore Jacqueline Hahn.
Vous n'atteindrez pas un électeur de la génération Z par le biais de contacts téléphoniques ou d'un appel parce qu'il a probablement un bloqueur de spam sur son téléphone ou qu'il ne répondra tout simplement pas à un numéro qu'il ne connaît pas. Nous sommes une génération de réseaux sociaux. Tout ce que nous regardons se trouve sur les réseaux sociaux.
Malgré toute la puissance de TikTok et autres Instagram, Camila Alfonso Mesa, partisane de Kamala Harris, fait du porte-à-porte à Herndon en Virginie pour encourager les gens à voter pour sa candidate. Selon elle, depuis que Kamala Harris a remplacé le président Joe Biden dans la course à la présidence, cela a donné un nouvel élan et a revigoré les jeunes démocrates. Alfonso Mesa pense que la génération Z, qui compte plus de 40 millions de jeunes, pourrait donc faire la différence lors des élections générales du 5 novembre aux États-Unis.
Que pensent les Africains de ce duel électoral entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump? Leurs messages nous viennent de plusieurs pays du continent. Suivons quelques-uns d'entre eux.
L'Afrique a supporté le poids du changement climatique et les plus grands contributeurs au changement climatique ont été les pays occidentaux et plus particulièrement les États-Unis. Je m'attends donc à des réparations pour la sécurité alimentaire, la santé et d'autres effets négatifs que le changement climatique a eu sur l'Afrique au cours des dernières décennies.
Les dirigeants américains devraient poursuivre ce que leurs prédécesseurs ont fait, continuer à aider l'Afrique dans son ensemble, pas particulièrement l'Afrique du Sud, mais le continent africain tout entier, parce que pour nous, en tant qu'Africains, il y a de la pauvreté, il y a des guerres sans fin. S'ils peuvent intervenir et mettre fin à ces guerres, je pense qu'ils rendront un immense service aux Africains.
L'économie mondiale tourne autour du type de politique et du prisme à travers lequel l'Amérique voit le monde. L'Afrique a besoin d'être nourrie et parmi les pays qui s'engagent à préparer l'Afrique, non seulement en politique, en économie, l'Amérique se distingue également.
Aujourd'hui, si l'Amérique veut toujours garder les liens des relations avec les pays africains, il faut que l'Amérique adopte une politique extérieure. Typique, adapté au contexte africain, pour permettre aux pays africains d'avoir leur indépendance.
Il serait bon que le président américain élu en novembre soutienne le développement économique et politique de l'Afrique, car il y a des choses que nous avons remarquées. Il y a eu des ingérences dans d'autres pays, y compris le nôtre. Je serais donc heureux si un président qui ne s'immisce pas dans les affaires intérieures des autres pays et qui encourage les Africains dans leur développement économique et politique est élu.
Ici, sur UFM, cette page spéciale consacrée aux élections américaines. Ne décrochez pas, dans quelques instants, la suite du journal. Vous écoutez VOA Afrique, l'édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous êtes toujours en compagnie de Yacouba Ouédraogo. Dans le reste de l'actualité, au Botswana, 1 million d'électeurs ont commencé à voter pour élire les futurs présidents et parlements. Le président sortant, Mongwetsi Masisi, 63 ans, brigue un second mandat. Face à lui, l'opposition est menée par une coalition de gauche, l'Umbrella for Democratic Change, UDC, dirigée par Douma Boko, 54 ans, avocat des droits humains. L'ex-chef d'État Yan Kama, 71 ans, revenu d'exil il y a 6 semaines, dit avoir l'espoir de réparer ce qu'il a qualifié d'erreur en cédant sa place en 2018 à Mongwetsi Masisi. S'il ne peut se représenter après avoir déjà fait 2 mandats, il soutient le BPF et a tenu des meetings qui ont rassemblé de larges foules. Les financements internationaux sont insuffisants pour que le bassin forestier de la République démocratique du Congo puisse jouer son rôle dans la lutte contre le changement climatique. C'est ce qui ressort d'une étude produite par les chercheurs du groupe d'études sur le Congo basé à l'Université de New York et l'Institut congolais Ibouteli. La RDC possède 60% de la forêt tropicale du bassin du Congo. Selon cette étude, entre 2016 et 2020, l'organisme étatique chargé de canaliser les appuis des bailleurs de fonds dans le secteur climatique n'a obtenu que 220 millions de dollars sur les 1,1 milliard de dollars attendus. Ce genre de sous-financement compromet l'appropriation nationale des initiatives visant la préservation des forêts et des tourbières, estiment les chercheurs. Au Soudan, une nouvelle milice a annoncé hier le déploiement de ses combattants dans l'état de Kassala dans l'est du pays, en coordination avec les forces armées en guerre contre les paramilitaires depuis 1 an et demi. Cette nouvelle milice, qui se fait appeler Bataillon de l'Est, a été entraînée en Érythrée voisine, selon son propre communiqué. L'est du Soudan a jusqu'à présent été épargné par la guerre. Le pays est ravagé depuis avril 2023 par une guerre civile opposant les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR, dirigé par le général Mohamed Hamdan Daglo, à l'armée conduite par le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays. La Somalie a ordonné l'expulsion d'un diplomate de haut rang de l'ambassade éthiopienne hier. Son ministère des Affaires étrangères n'a pas donné de raison précise, tout en déclarant qu'Ali Mohamed Adan n'avait pas respecté les lois du pays d'accueil et n'avait pas pu s'empêcher de s'impliquer dans ses affaires intérieures. Les tensions sont vives entre les deux pays depuis que l'Éthiopie a conclu en janvier un accord pour établir un port dans la région somalienne sécessionniste du Somaliland. Le président français Emmanuel Macron a confirmé hier au Maroc son soutien à la souveraineté marocaine au Sahara occidental, qui a permis la réconciliation avec le roi Mohamed VI. Il a aussi appelé à plus de résultats dans l'épineux dossier de la lutte contre l'immigration illégale. L'heure est à l'apaisement sur ces deux questions qui avaient nourri les brouilles entre les deux pays ces 3 dernières années. Débutée lundi dans le royaume chérifien, la visite d'État du président français prend fin ce mercredi. Jusqu'ici, 40 accords ont été signés dans le secteur ferroviaire, le dessalement de l'eau, la fourniture d'un satellite de communication ou la production d'hydrogène vert.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
9 personnes ont été blessées dans la nuit dernière à Kiev dans une attaque russe de drone qui a provoqué un incendie dans le bâtiment touché, selon l'annonce faite par les autorités ukrainiennes. Confrontée à des avancées russes qui s'accélèrent, l'Ukraine a annoncé hier une nouvelle mobilisation des 160 000 hommes. Les États-Unis ont confirmé mardi pour la première fois la présence d'un petit nombre de soldats nord-coréens dans la région russe de Koursk, frontalière avec l'Ukraine. Selon le Pentagone, 10 000 soldats nord-coréens se trouvent en Russie. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, avait déjà déclaré lundi confirmé que des troupes nord-coréennes ont été envoyées en Russie, dénonçant une escalade significative et une expansion dangereuse de la guerre. L'Australie va produire des missiles guidés de longue portée et des munitions d'artillerie sur son territoire pour renforcer ses moyens de défense. C'est ce qu'a annoncé son gouvernement. Canberra va collaborer avec le groupe américain de défense Lockheed Martin pour fabriquer en Australie des systèmes de lance-roquettes multiples avec guidage, a indiqué Pat Corner, ministre de l'Industrie et de la Défense. Le complexe de production d'armement avancé d'un coût de 200 millions de dollars pourra livrer jusqu'à 4000 missiles par an, d'après Conroy. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a envoyé hier une lettre au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour demander le maintien de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, interdite par une loi en Israël. La loi telle que nous la comprenons donne 90 jours avant d'entrer en vigueur, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric, espérant que la loi votée lundi qui interdit l'agence en Israël ne sera pas appliquée. Dans la lettre, Antonio Guterres répète que si la loi est appliquée, cela aura des conséquences dévastatrices sur les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. La Chine a indiqué ce mercredi qu'elle n'approuvait pas et n'acceptait pas la décision prise par la Commission européenne après une enquête d'instituer des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques importés de Chine. Pékin a intenté une action dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, a indiqué un porte-parole de son ministère, celui du commerce. C'est tout pour l'actualité. À présent, les dossiers du jour. Au Sénégal, la campagne pour les législatives du 17 novembre prochain a démarré dimanche. 41 listes se sont lancées dans la conquête de l'Assemblée nationale. Mais des violences ont entaché ce début de campagne d'un scrutin aux grands enjeux, surtout pour le pouvoir. Le reportage à Dakar de Wahani Johnson Sambou.
La campagne électorale pour les législatives du 17 novembre prochain au Sénégal fait parler d'elle plus pour les violences que pour la forte mobilisation des électeurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, le siège de Tahaou Sénégal, formation membre de la coalition de l'opposition Sam Sakadou, a été incendié par des inconnus. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui en est la tête de liste, prévient. Nous n'incitons personne à faire quoi que ce soit, ne provoquer aucune coalition qu'on croisera pendant la campagne. Si on vous provoque, ne répondez pas. Mais si vous êtes attaqué, vous devez vous défendre. Un peu plus tôt, la tête de liste de Dakar du PASTEF au pouvoir avait suscité l'indignation en demandant à ses partisans de venir armés après l'attaque de son convoi, Abbas Fall. Je le dis et je prends mes responsabilités, que chacun amène demain une arme en venant. Lorsque je dis arme, je fais allusion au couteau, coupe-coupe, etc. Il a ensuite présenté ses excuses. Le ministère de l'Intérieur a appelé les acteurs politiques à l'apaisement. Pendant ce temps, les discours musclés et les provocations se multiplient entre le pouvoir et l'opposition. Alors qu'une caravane de PASTEF au pouvoir sillonne le fief du maire de Dakar, Babacar Gueye jubile déjà.
Quand une personne se dit patriote et se dit propriétaire de Dakar, alors que même à Baobab, il n'y a pas un partisan de Barthélémy qui sort, nous on se dit convaincu qu'on aura 165 députés. Maximum, minimum 150.
Du côté de l'opposition, on se prépare à une bataille sans merci dans l'objectif d'imposer pour la première fois la cohabitation au pouvoir. Pape Dibril Fall, candidat de l'opposition.
L'opposition sénégalaise
doit gagner le 17 novembre pour permettre au Sénégal d'avoir enfin un président de la République bien installé dans son fauteuil. La meilleure manière de rendre service aujourd'hui à Bassirou Diomaye Faye, c'est de gagner les élections et d'imposer la cohabitation pour redresser le pays. 41 listes sont en lice dans cette campagne électorale pour la conquête des 165 sièges de l'Assemblée nationale. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Gabon, face à la résurgence des victimes d'accidents vasculaires cérébraux, la Société nationale de neurologie organise en collaboration avec plusieurs ONG une série d'activités pour sensibiliser sur la pathologie. Les malades et les victimes d'AVC ont pris le week-end dernier pour partager leur expérience personnelle. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
La cinquantaine révolue, Aimé Delia a vécu en 2011 l'une des formes les plus graves d'AVC. Elle est sortie de cette expérience terrifiante pour sensibiliser sur la maladie.
J'ai eu en 2011, aujourd'hui on est en 2024, et j'ai traversé beaucoup de choses. J'avais perdu la mémoire. Je ne m'asseyais pas. Je ne parlais plus. J'ai tout refait comme un enfant. J'ai réappris à manger, à m'asseoir d'abord, essayer de me lever, essayer de faire un pas. L'AVC, c'est dur.
Un témoignage parmi tant d'autres sur la liste des victimes du tueur silencieux. Selon les spécialistes, les AVC sont des affections très graves puisqu'un quart des patients perdent la vie. André Kossi, un autre miraculé, aujourd'hui en pleine rééducation.
Le soir à la maison, je me suis couché autour de 23h30, 24h comme ça, et j'avais envie d'aller me soulager. C'est là quand je veux me lever, je tombe. Je sens un poids sur un côté. Je sens un poids, un gros poids sur un côté. Quand je veux me tenir debout, j'ai tendance à aller ce côté-là. Et comme si de la blague, je me posais la question, mais c'est pas ce qu'on appelle AVC là qui m'arrive. Dès que le lendemain matin, très tôt qu'on est venu m'amener aux urgences d'Akanda.
André a été très vite pris en charge par l'unité neurovasculaire du centre hospitalier universitaire de Libreville. Une bonne nouvelle pour le Gabon qui a longtemps évacué ses malades à l'étranger. Docteur Annick Sunda, neurologue au CHU de Libreville.
Dès que les premiers signes apparaissent, il faut se rendre immédiatement au centre hospitalier universitaire de Libreville, où il existe une unité neurovasculaire qui est chargée de la prise en charge de l'AVC à la phase aiguë. Donc il faut arriver très vite, c'est-à-dire dans un délai de moins de 4 heures.
En 2005, la prévalence de l'AVC au Gabon se situe autour de 46%. Une étude réévaluée en 2022 fait état d'une progression de la maladie estimée à plus de 66% de victimes. Parmi les facteurs à risque, l'hypertension et le diabète, d'après Dr Annick Sunda.
Lorsqu'on souffre de ces pathologies, il faut les prendre en charge correctement. Maintenant, il y a d'autres facteurs de risque, tels que la sédentarité.
Une intense activité sportive peut réduire les risques d'AVC, affirme la neurologue. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
C'est maintenant l'heure de faire un tour d'horizon de l'actualité sportive et c'est avec Nanit Talani. Bonjour Nanit.
Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
La CAF a dévoilé la date du dernier match du groupe des Super Eagles. C'est dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Les Super Eagles du Nigeria poursuivront leur qualification pour la CAN 2025 en affrontant le Bénin et le Rwanda le mois prochain. Leur dernier match de qualification se jouera exactement le 18 novembre au stade Goswill Akpabio Duyo, où ils vont rencontrer le Rwanda. Ce match, qui marquera la fin de la phase de groupe pour le Nigeria dans le groupe D, sera arbitré par le Marocain Samir Ghezaz. Avant cela, le Nigeria affrontera le Bénin le 14 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire avec le Sénégalais Issa Sy comme arbitre principal.
Et puis, d'anciens joueurs des R&B Stars demandent le limogeage d'Engine Firat après la défaite contre le Soudan du Sud.
Trois anciens joueurs des R&B Stars ont appelé la Fédération kényane de football à limoger l'entraîneur Engine Firat à la suite de la décevante défaite 2-0 contre le Soudan du Sud lors du match aller des éliminatoires du CHAN 2025 dimanche dernier. L'équipe était censée faire beaucoup mieux contre un adversaire perçu comme plus faible. Le Kenya est maintenant confronté à un match retour difficile ce week-end en Ouganda où il doit gagner par une marge significative pour avancer dans les éliminatoires. Firat n'a remporté que 3 victoires en compétition depuis sa nomination en septembre 2021. Ces contestataires soulignent la nécessité d'un nouveau coach pour restaurer la réputation de l'équipe et améliorer ses chances dans les éliminatoires restantes de la CAN.
Et puis en tennis, Sinner malade quitte Paris sans jouer.
À la veille de son entrée en lice attendue, le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, a renoncé à jouer au Masters 1000 de Paris en raison d'un virus intestinal. Le numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz, fait ses premiers pas en début de soirée. Le forfait de Sinner, assuré depuis mi-octobre de finir l'année sur le trône du tennis mondial pour la première fois de sa carrière à 23 ans, fait les affaires d'un joueur français, Arthur Cazot, ainsi repêché dans le tableau principal. Yannick Sinner a désormais une dizaine de jours devant lui pour retrouver la forme avant l'objectif majeur de sa fin de saison, le Masters à Turin, qui réunit les 8 meilleurs joueurs de l'année sur ses terres italiennes du 10 au 17 novembre.
Voilà, c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouédraogo, Michel Joseph à la réalisation. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes.